À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint Joseph d'Arimathie. C'est lui qui a enseveli Jésus dans un tombeau et dans un linceul. En l'an 30, un certain 5 avril de l'an 30, d'après les recherches les plus poussées qu'on a. C'est évidemment la fête de Saint-Patrice. Aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de Saint-Patrick. Alors, Saint-Joseph d'Arimathie, c'est quand même un personnage intéressant quand on y pense deux secondes. Un homme qui était sans doute parmi la communauté juive, un homme important, comme Nicodème, d'ailleurs, qui l'a assisté dans l'ensevelissement de Jésus, et que l'on appelle aussi Saint-Nicodème, dans la tradition chrétienne depuis longtemps. Et ces deux hommes ont eu l'audace de poser ce geste de respect à l'égard de Jésus auquel il semble bien qu'ils croyaient comme étant le Messie tant attendu par les Juifs. Joseph était originaire d'Arimathie, pour ça qu'on l'appelle comme ça, Saint-Joseph d'Arimathie. C'est une ville de Judée d'après l'évangile de Saint-Luc au chapitre 23 et on a identifié cette ville avec Ramatha, où est né le prophète Samuel, le fameux prophète Samuel. Et le fait ne manque pas, d'ailleurs, de vraisemblance. D'autres préfèrent Ramelais, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il vient de la même ville, semble-t-il, que de Samuel, et qu'il était donc un vrai juif, ce Joseph d'Arimathie, dans toute la splendeur de ce que ça veut dire. Ce peuple choisi, ce peuple qui a été témoin de la présence de Dieu en Jésus-Christ et qui en partie l'a suivi et est à l'origine de notre foi et nous devons à ces milliers de Juifs qui ont reconnu Jésus la foi chrétienne qui couvre le monde et qui donne espérance à des milliards de gens depuis des siècles. Les évangélistes représentent ce Joseph d'Arimathie au moment de la mort de notre Seigneur comme un riche Israélite. C'est un homme vertueux, dit-on aussi, et juste. C'est l'un de ceux, très nombreux, n'est-ce pas, qui attendent ce royaume de Dieu, ce renouvellement de leur pays, de leur peuple, et surtout de leur foi. Il est membre du Grand Conseil, c'est-à-dire du Sanhédrin, ce n'est pas peu dire, hein? On retrouve ça dans Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Et les évangélistes qui ont écrit ce qu'on peut appeler des vies de Jésus dans un sens, les évangiles. Dans tout ce que les Juifs avaient entrepris contre Jésus-Christ, Joseph d'Arimathie n'a eu aucune part, il ne s'est jamais manifesté contre Jésus-Christ. Il est même disciple du Sauveur, c'est donc un des premiers croyants. C'est pour ça qu'il est bon de le célébrer aujourd'hui. Quel courage ça prend, hein? Il est probablement l'un de ceux qui ont cru en lui lors de la première prédication en Judée. D'où il vient, Arimathie, c'est en Judée. Mais sans doute la crainte l'empêchait de se déclarer comme disciple de Jésus, parce que c'était très mal vu par une grande partie des autorités du Sanhédrin, évidemment. Cependant, lorsque l'arrêt de mort est rendu par Pilate et qu'il a été exécuté, la foi, oui, la foi et l'amour de cet homme sincère est bon. Ça lui inspire justement un acte vraiment courageux, comme je vous disais. Est-ce qu'on l'aurait fait, nous? Vous savez, il va trouver Pilate. Il demande la permission de prendre le corps de Jésus mort sur la croix pour lui donner une sépulture honorable. Il est aidé, comme je vous dis, par Nicodème, ce merveilleux disciple secret de Jésus, avec lequel il a eu une conversation qui est bouleversante. Un jour, je vous parlerai de Nicodème, que j'aime beaucoup. Quel juif admirable. Puis, Joseph d'Arimathie détache le corps ensanglanté de Jésus. Il le détache de la croix. Il l'embaume avec 100 livres romaines de myrrhe et d'aloès. 100 livres romaines, ça veut dire environ 32,5 kilos. Parce que la livre romaine, c'est pas comme notre livre anglaise. Elle équivaut à 327,45 grammes, je vous le dis, pour cas où vous trouveriez que je me trompe en disant que 100 livres, ça vaut 32,7 kilos. C'est beaucoup quand même. 100 livres de myrrhe et d'aloès. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il l'enveloppe de linge, d'un linceul, conformément à la pratique des Juifs. Le dépose dans un sépulcre tout neuf, et sans doute que le linceul, il vient de l'acheter durant la journée. Voyant que l'homme qu'il admire tant va mourir, il a dû décider, dès la fin de la matinée, qu'il allait l'ensevelir. Ce tombeau tout neuf, il l'a fait tailler dans le roc pour lui et sa famille, mais personne n'a encore été enfermé dans ce tombeau. Et là, après avoir accompli ce devoir de grand respect, il ferme l'entrée du sépulcre avec une grosse pierre qu'il roule, et il se retire. C'est surprenant, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait de certain sur Saint Joseph d'Arimathie, c'est tout. Le courage, le respect à l'égard du corps de Jésus. Il y a là beaucoup d'amour, finalement. C'est en vain qu'on voudrait ajouter à ces détails qui sont consignés dans l'Évangile d'autres indications qui nous sont fournies par les écrits apocryphes dont je vous ai déjà parlé, les écrits apocryphes des premiers siècles. Ces évangiles, ces lettres, c'est ça. Ça s'est publié par, si je me souviens bien, les éditions du Cerf, d'ailleurs. Moi, j'ai tout ça ici. Je lis ça parfois, c'est intéressant, mais ce ne sont pas des écrits reconnus par la tradition chrétienne officielle. On trouve des choses dans les Actes de Pilate, ça s'appelle comme ça, ce petit livre, qui nous parle de Joseph d'Arimathie. Mais mieux vaut avouer qu'on ne sait rien sur ce qui est devenu Joseph d'Arimathie après l'ascension de notre Seigneur. Par exemple, sur ces détails qui nous sont donnés dans les apocryphes sur sa venue en Gaule, et puis sa fuite devant les persécutions de certains Juifs qui s'opposaient à lui. Son arrivée, dit-on, en Angleterre, oui, on prétend ça, dont il aurait été le premier apôtre. Puis la fondation du premier oratoire de Glastonbury. Puis on parle aussi d'un récit de la translation de son corps de Jérusalem, où il aurait été enseveli, jusqu'à Moyen-Moutier, dans le diocèse de Toul. C'est en Lorraine dont je vous parlais hier, en vous parlant d'une sainte fondatrice des Spiritaines, qui est morte en 1931, qui venait de Lorraine, elle aussi. Et tout ça se serait déroulé, cette translation, à l'époque de Charlemagne. Concluons tout ça en disant que l'Église grecque célèbre la fête de Saint Joseph d'Arimathie en plein été, le 31 juillet, mais aussi à diverses autres dates, tant on l'admire. Dans l'Église latine, on l'honore le 17 mars, aujourd'hui, mais c'est seulement depuis le 16e siècle. C'est en 1585 que le fameux Baronius a inséré son nom à cette date dans le martyrologe romain. On a cru posséder un bras de Saint Joseph d'Arimathie à Saint-Pierre du Vatican, dans la basilique, là, depuis le 15e siècle. Mais ce sont des reliques, sans doute fausses, du Moyen Âge. Et les chanoines de la basilique de Saint-Pierre du Vatican célèbrent sa mémoire le 17 mars. Puis, à un moment donné, ils ont tenu que toute l'Église catholique romaine s'unissent à eux, et le nom de Saint Joseph d'Arimathie a occupé d'abord la première place dans le martyrologe romain au 17 mars, mais c'est Urbain VIII qui a fait mettre au premier rang le nom de Saint Patrick, Saint Patrice si vous préférez, l'apôtre de l'Irlande. Le fameux cardinal de Bérulle, dont je vous ai déjà parlé, a fait composer pour sa congrégation de l'Oratoire, qui est une congrégation extrêmement importante de prêtres savants, en grande partie, un office en l'honneur de Saint Joseph d'Arimathie. Mais maintenant, nous allons passer au récit de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 19, où il est question de Saint Joseph d'Arimathie et de ce qu'il a fait, et de ce que Saint Jean a vu quand il dit Saint Jean dans son texte, il a vu et il a cru. Dans le texte que nous lisons dans nos églises, on peut dire qu'il n'a rien vu, puis qu'il a cru, parce que ce qu'il voit, ce n'est pas la vraie traduction du texte. Il faudrait vraiment que l'on retraduise ce texte selon les données des découvertes que j'avais analysées en partie dans une entrevue avec M. Feuillet, un sulpicien très savant sur l'écriture du Nouveau Testament, et particulièrement sur ce texte, et d'autres savants qui se sont penchés sur la question. Je commence donc la lecture de ce texte. Lorsqu'ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, et sur le linceul de Turin, sur le linceul, le Christ n'a pas les jambes brisées. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, c'est bien ce qu'on voit sur le linceul. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau, et c'est tout à fait ce que l'on voit encore, c'est du sang et de l'eau qui a coulé du côté droit. Saint Jean continue au verset 35, et celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. C'est très important ces paroles-là, afin que vous croyiez. Comment faire? Il dit ensuite, car ces choses sont arrivées afin que cette parole de l'Écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Nous verrons tout à l'heure ce qui est arrivé après cela, comme il dit en grec « meta tauta », c'est quand le Saint Jean change de sujet et va vers quelque chose de très important, il met ces deux mots grecs « après cela ». Alors, je vous ai dit que je continuerai la lecture du texte de Saint Jean, qui date de très longtemps, la fin du premier siècle. Il dit « après cela », donc après avoir transpercé le côté de Jésus, il a sorti du sang et de l'eau, les Romains ne lui ont pas brisé les jambes à Jésus, puis il dit « après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, voyez-vous, mais en cachette évidemment », ajoute Saint Jean, « par crainte des Juifs, de certains Juifs, quoi. » Il demande à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permet. Il vient donc et enlève son corps. Nicodème, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un homme très important aussi, qui était venu auprès de lui tout d'abord la nuit, vient aussi apportant environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et ils, et voilà qu'il y a un texte qu'il faut traduire différemment, ils l'entourèrent de bandelettes. Ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction qui est proposé de plus en plus aujourd'hui, d'après le grec et les textes et l'analyse très sérieuse, c'est « ils le lièrent de linge, l'enveloppèrent de linge, avec les aromates suivant la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, à l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé, c'est là qu'à cause de la préparation des Juifs, la préparation de la fête de Pâques, c'est ça que ça veut dire, c'est une grande fête, leur Pâques à eux, c'est-à-dire libération d'Égypte. Ce tombeau est en proche ils déposèrent Jésus. Alors, ce qu'on peut dire de ça, c'est qu'après les réflexions de l'évangéliste sur le coup de lance, le récit reprend son cours normal, sur le ton narratif, avec ce « après cela », n'est-ce pas? C'est l'expression dont Saint Jean se sert habituellement, comme je vous dis, pour introduire une nouvelle section qui lui semble importante. Mais les gens, à l'époque, les Juifs, sont férus de légalisme, hein, sur le chapitre des impuretés. Ils le sont encore aujourd'hui, en général, surtout les Juifs orthodoxes, surtout par des impuretés occasionnées par des cadavres. Ça, c'est très grave pour eux. Et les Juifs tiennent beaucoup à ce que les prescriptions de la loi touchant l'ensevelissement des condamnés soient strictement observées dans le cas même de Jésus. Et prenant prétexte de cette disposition, mais Joseph d'Arimathie a demandé au procurateur Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus, et Arimathie est sans doute, comme je vous ai dit, une ville d'où vient Samuel. Et d'après Saint Marc et Saint Luc, bien Joseph d'Arimathie était membre du Sanhédrin. Et d'après Saint Matthieu, c'était un homme riche, donc qui avait été instruit par Jésus. Saint Jean le représente comme un disciple du Maître, il vient de le dire, hein, mais caché par peur des Juifs. Et toutes ces indications se recoupent au mieux puis concourent à expliquer les démarches de cet homme qui surgit dans l'Évangile, ce nouveau venu, Saint Joseph d'Arimathie. Et sa vénération pour la personne de Jésus, c'est ça qui suscite son initiative, hein? Et sa qualité de membre du Sanhédrin, ça sert son dessein à souhait, il est puissant. Alors le permis d'inhumer qu'il est venu solliciter lui est accordé, d'autant plus facilement qu'il est conforme aux coutumes romaines, de délivrer les corps des suppliciés à ceux qui les réclament. Hein? On trouve ça dans des vieux textes de Paulus. Joseph d'Arimathie est donc assisté par Nicodème, un autre disciple caché comme lui, membre du Sanhédrin. Et Saint Jean n'a pu à le présenter, il lui suffit de rappeler que c'est celui dont il nous a narré l'entretien nocturne avec Jésus, dont je vous parlerai un jour, en fêtant Saint Nicodème. Pour tout finir à temps, avant le crépuscule, environ 6 heures, pour nous, ou si vous voulez 18 heures, il fallait aller au plus vite, et Nicodème s'est chargé des aromates requis pour l'ensevelissement, puis il semble s'être plus soucié de la qualité que de la quantité, Environ donc 100 livres, 32,7 kilos, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une mixture de myrrhe et d'aloès. Vous devez demander peut-être, certains d'entre vous, ce que c'est que la myrrhe. C'est une espèce de gomme arabique. On y ajoutait de la poudre aromatique extraite du bois d'aloès. Myrrhe et aloès sont ainsi souvent cités de pair. On trouve ça dans le psaume 45, au verset 8, puis dans les proverbes, dans le cantique aussi, des cantiques au chapitre 4. Et les deux disciples prennent donc le cadavre de Jésus, puis procèdent à son ensevelissement à la manière juive. Il est enveloppé dans un linceul propre, un linceul tout neuf. Vous savez que ce linceul que j'ai vu est très souple, très léger. Il est d'une teinte un peu jaunâtre avec le temps, mais il était sans doute blanc au moment où il a été fait. Et tout s'était fait à la hâte, encore avait-on pu disposer du tombeau que Joseph d'Arimathie s'était fait creuser, heureusement, et qui se trouvait dans un jardin ou enclos voisin du Golgotha. Dans le récit de Saint Jean, il est dit au chapitre suivant que Marie-Madeleine dit à Simon-Pierre, puis à Saint Jean, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons où on l'a mis. » Et Pierre partit donc, écrit Saint Jean, « Pierre partit donc ainsi que l'autre disciple. » Il parle de lui-même en disant « l'autre disciple. » Et ils vinrent au tombeau, et tous deux couraient ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau, et en se penchant, il vit. Et dans les textes qu'on a dans nos prions en Église, c'est écrit « les bandelettes posées là ». Ça veut rien dire. La vraie traduction, c'est « il vit que les linges sont affaissés ». Le linceul est affaissé. De même que le suaire. Qu'est-ce que c'est que le suaire? Le suaire, c'est un linge facial que l'on plie en partie et que l'on passe sous le menton et qui sert de mentonnière et qui est attaché sur le sommet pour retenir la bouche fermée. Donc, il vit les linges, ce sont ces deux linges-là, le linceul et le suaire, qui est le linge dont je viens de vous parler, la mentonnière, qui sont affaissés. Je continue la lecture du texte de Saint Jean, mais néanmoins il n'entra pas. Puis Simon-Pierre vint à sa suite et il entra dans le tombeau. Il vit, dit-on dans les textes habituels, les bandelettes posées là et le suaire qui était sur sa tête, non pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part dans un endroit. Tout ça ne veut rien dire. Je m'excuse, je suis d'accord avec les plus grands spécialistes de l'heure depuis déjà bien plus que 20 ans. On discute de ça depuis 30 ans, mais on dirait qu'on ne veut rien changer dans nos textes, dans la liturgie, et je ne comprends rien à ça. Il y a des choses qui sont bien mystérieuses dans l'Église. Le vrai texte, c'est « Puis Simon-Pierre vint à sa suite et il entra dans le tombeau. Il vit les linges affaissés et le suaire qui était sur sa tête, non pas affaissé avec les linges, mais distinctement enveloppé et enroulé à sa place. » À sa place, c'est-à-dire vraiment là où le linceul est plié. Car le linceul, c'est cette grande bande de tissu, n'est-ce pas, qui est placée sur le tombeau. Le Christ a été déposé dessus, sur le dos, et la pièce de tissu a été rabattue sur lui. Et c'est ainsi qu'il a pu laisser les traces de son corps de dos et de face, de façon absolument unique dans l'histoire de tous les suaires et de l'humanité, et l'on ne peut pas répéter le phénomène, même aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il voit, et Saint Jean ajoute, alors l'autre disciple, il parle de lui-même encore, en disant l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, et là, écoutez bien les paroles, et il vit et il crut. Il a vu le linceul affaissé, et à l'intérieur du linceul, dans le milieu, à la tête, là, le suaire qui était resté là. Car, ajoute Saint Jean, il n'avait pas encore compris par l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Il ajoute, les disciples retournèrent donc chez eux, avec ce trésor extraordinaire de la foi en la résurrection de Jésus. Je vais continuer à vous expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les questions de Saint Joseph d'Arimathie, mais surtout du linceul de Turin. Le linceul dans lequel le Christ a été enseveli. Il y a quelques années, même pas 10 ans, à la suite de l'analyse de la datation du linceul de Turin au carbone 14, on m'avait interviewé ici et là, même à Toronto, puis en Europe, au sujet du linceul. On croyait que cette expertise faite au carbone 14 détruisait toutes les autres expertises. Alors que la médecine, comme le docteur Barbet, dont il a été question tout à l'heure à Radio Ville-Marie, à 9h30, a fait une analyse très poussée sur le plan médical du linceul de Turin pour montrer que vraiment c'était un homme qui avait subi les mêmes tourments que ceux que Jésus a souffert sur la croix et dans sa passion en étant flagellé, etc., et couronné d'épines. La chirurgie dit oui, l'anatomie aussi, la physiologie, la physique, la chimie, la palynologie, c'est la science des pollens fossilisés, hein. On a trouvé des pollens fossilisés sur le linceul qui datent du début de l'ère chrétienne parce qu'ils appartiennent à des plantes disparues à la fin du deuxième siècle dans la région où Jésus est mort, c'est-à-dire en Palestine. L'informatique aussi dit oui aujourd'hui. Et la technique du textile aussi dit oui. D'accord, il peut y avoir quelques personnes ici et là qui disent que c'est pas vrai parce qu'ils eux aussi disent qu'ils connaissent les textiles. Mais comment une personne peut-elle s'opposer à 100 autres, 500 autres, etc.? Et l'histoire nous dit qu'il est vraisemblable que ce soit le linceul du Christ et l'archéologie aussi. Mais le carbone 14 règne en maître depuis quelques années, depuis octobre 1988, je dirais même un peu avant, puisque dès le mois de juillet, Monsieur Tait, qui était l'un des responsables en Angleterre de l'analyse au carbone 14, avait déjà laissé couler ses déclarations, à savoir que le linceul datait du Moyen Âge. J'avais déclaré, pour moi, les résultats des tests scientifiques du carbone 14 ne changent absolument rien parce que, je le dis en toute lucidité, ils sont inadmissibles. Ils sont inadmissibles pour des raisons scientifiques. Alors on met trois points dans un texte qui m'attaque et on ajoute, je reconnais, dans le Saint-Cyr de Turin, un miracle. On ajoute mon nom, Raymond Beaugrand-Champagne, animateur, j'ai jamais été animateur, j'étais réalisateur et producteur à Radio-Canada. C'était cité dans la presse le 16 octobre 1988, à la page A6. Qui publie ça? Les fameux sceptiques qui font parler d'eux. Vous savez, les sceptiques, on les voit de plus en plus. Le Québec sceptique. Je trouve qu'ils ont bien raison de s'attaquer à bien des choses. Ces jeunes et moins jeunes, ils s'attaquent avec beaucoup de raison et beaucoup de connaissances, souvent, à toutes sortes de choses farfelues. Mais là, vraiment, quand ils m'attaquent, je crois qu'ils font mauvaise route. Ils font fausse route. Et dans leur texte, ils ajoutent ainsi la datation carbone 14, laquelle, soit dit en passant, ne fait que confirmer ce que l'on savait depuis toujours, ce qui est tout à fait faux, ne prouverait absolument rien. Pourtant, ne vient-elle pas de montrer avec éclat la datation carbone 14 et hors de tout doute raisonnable que la confection du suaire, je crois que l'on devra à l'avenir se passer définitivement et de la sainteté de la majuscule au mot suaire. Alors c'est le suaire et non plus le saint suaire avec des majuscules, que ça remonte bien à l'époque médiévale. Imaginez. Qui aurait pu faire ça à l'époque médiévale quand on n'est même pas capable d'en faire un à la fin du 20e siècle, alors avec toutes les connaissances que nous avons? Et il ajoute, pourquoi alors un tel aveuglement? Pourquoi cette mauvaise foi, si l'on peut dire systématique, que Beaugrand-Champagne et ses semblables continuent et continueront sans nul doute à afficher, et je pourrais continuer à lire les attaques comme ça. Ces pauvres gens n'ont jamais rien lu sur le linceul. J'ai eu 55 à 60 volumes maintenant sur le linceul. L'un des plus intéressants paru récemment, c'est un texte d'André Marion et Anne-Laure Courage, paru chez Albin Michel, Nouvelle découverte sur le linceul de Turin, paru l'an dernier. Mais il y a aussi, je vous recommanderais, c'est le dictionnaire du linceul de Turin de Raffard de Brienne, paru aux éditions de Paris aussi il y a quelque temps. Remarquable ouvrage, mais c'est tellement rempli d'ouvrages extraordinaires. Rappelons que le suaire, c'est une pièce donc de lin à chevron, c'est-à-dire, on disait ça quand j'étais jeune, herringbone. Vous savez, des petites flèches, là. Des tissés comme ça. Il a 4 mètres 36 de long. 4 mètres. C'est assez long. Sur 1 mètre 10 de large, donc. Un peu plus de 3 pieds. Et qui montre de face et de dos le visage et le corps d'un homme portant les traces d'une flagellation et aux pieds et aux mains les plaies d'un crucifié. Or, on a bien annoncé, dans ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nouvelle découverte sur le suaire de Turin, mais dans plusieurs autres ouvrages, comme l'a spécifié l'archéologue italienne Maria Grazia Ciliato, à la fin d'octobre dernier, à Rome. Elle a bien répété ce que d'autres ont annoncé avant et disent, que les experts choisis par l'Église catholique en 1988 pour faire la datation carbone 14 du linceul de Turin avaient conclu que le Saint-Suaire était un faux et qu'il s'était vraiment complètement trompé. Pourquoi? L'archéologue spécialiste des civilisations méditerranéennes, spécialiste du Proche-Orient, a affirmé que la datation effectuée en 1988, à la demande de l'Église, n'avait pas été réalisée sur des fragments du linceul, mais sur l'un des nombreux ajouts faits sur le tissu au cours des siècles. Et c'est ça, c'est très important à savoir. Et Mme Ciliato a appuyé sa thèse en se basant justement sur des analyses de deux ingénieurs de l'Institut d'optique d'Orsay de Paris, les noms que je viens de vous donner, M. Marion et Mme Anne-Marie Courage, auteur, je vous le rappelle, de Nouvelles découvertes sur le suaire de Turin, chez Albin Michel, 1997. Et selon Mme Ciliato, et selon l'ouvrage, les trois prélèvements coupés sur une lanière d'un centimètre sur 7 centimètres et soumis donc à l'examen au carbone 14 en 1988 là, par trois laboratoires américains, anglais et suisses, selon la règle du contrôle aveugle, n'étaient, dit-elle, puis elle a bien raison, que des fragments du linceul de Turin. N'étaient pas, c'est-à-dire des fragments du linceul de Turin. Madame Ciliato a affirmé, et c'est très important, que le morceau soumis à la datation pesait 42 mg par centimètre carré. 42 mg. Alors que le poids moyen du suaire est de 20 à 23 mg, donc la moitié, par centimètre carré. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le suaire est un tissu très léger, très fin, très précieux, très raffiné. Et on a trouvé sur le linceul le mot Jésus Nazaréen, non pas de Nazareth, mais Nazaréen. C'était relevé sur le tissu grâce à un système d'images scannerisées. Et justement, dans le livre d'André Marion et Anne Laure Courage, il y a toute une section sur ces textes. Et sur la couverture, d'ailleurs, on voit une photo de la Sainte Face avec, en calligraphie orange, certains des textes que l'on trouve sur le linceul maintenant, grâce aux nouvelles découvertes avec les ordinateurs et tout ce que vous voulez. Ça améliore considérablement l'analyse du linceul. En 1988, les experts en datation en carbone 14 réunis par le Vatican, vous le savez, avaient estimé que le Saint-Suaire remontait au 14e siècle. Et le travail de ces quelques chercheurs, ça n'a pas mis fin aux polémiques entre ceux qui doutent que ce tissu ait enveloppé le corps du Christ. Puis les scientifiques très nombreux qui sont persuadés du contraire. C'est pas parce qu'il y a quelques énergumènes ici et là qui n'ont pas étudié vraiment le linceul se prononcent et que les journaux en font écho partout, écho ou état, les revues, etc., que ça veut dire que c'est eux qui ont raison. Ce qui est dit de vrai est souvent gardé dans le silence. Quand on attaque et qu'on dit n'importe quoi d'invraisemblable, pourquoi faut-il que les journaux, les revues s'emparent de ces choses-là? Depuis la fin des années 80, des scientifiques sont membres du Centre international d'études sur le linceul de Turin. Et des centaines d'autres à travers le monde contestent la conclusion des travaux de 1988, à savoir que le linceul date du Moyen Âge, d'après la datation carbone 14. Je vous rappelle que le cardinal, qui est gardien officiel du Saint-Suaire à Turin, eh bien ce cardinal doit exposer le Saint-Suaire, comme on dit, avec l'accord du pape Jean-Paul II, au cours d'une exceptionnelle ostentation-exposition dans quelques semaines. Ainsi qu'en l'an 2000. Ce sont les papes qui sont les propriétaires du linceul maintenant depuis 1983. Il appartenait à la maison de Savoie de 1453 à 1983. Et je vous rappelle, l'ancien roi Umberto II d'Italie, quand il est mort, l'a laissé en héritage au chef de l'Église catholique. C'est la relique la plus vénérée des catholiques. Et non seulement des catholiques, mais par beaucoup de protestants maintenant. Et elle est étudiée, analysée, et elle a convaincu beaucoup d'athées et d'agnostiques, non pas nécessairement pour les convaincre que Jésus est vraiment ressuscité, bien que c'est une évidence à mon avis, en contemplant et en analysant et en étudiant et en lisant. Je vous rappelle que donc cette relique importante a failli brûler le 12 avril dernier, il y a moins d'un an, lors d'un incendie spectaculaire dans la cathédrale de Turin. On ne sait pas trop si c'était volontaire ou non. Il semble que ce soit accidentel. Rappelez-vous que le linceul a été sauvé par un pompier qui a réussi à briser à coups de marteau la protection en verre par balle qui le protégeait et que j'avais vu il y a 2 ans. Enfermé dans cette boîte extraordinaire. Et lorsque le test du carbone 14 a été fait sur le linceul de Turin, c'est évident que l'Église a accepté un risque. Mais à chaque étape, le cardinal Balestrero, que je connaissais bien, l'archevêque de Turin, s'est incliné. Unilatéralement, si on peut dire, devant l'espèce de diktat des spécialistes supposés là, du carbone 14. Mais ces gens-là refusaient le dialogue avec les autres sciences dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça le drame. Ils semblent considérer leur thèse particulière comme le jugement dernier, et comme si le jugement des autres savants qui ont porté toutes sortes de jugements, puis d'études et des bouquins, ont écrit des tas de bouquins sur le linceul, tout ça, ça comptait pas. La seule science serait le carbone 14. Et les autres sciences, alors, pourquoi les rejette-t-on? Le refus du dialogue, puis de ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. Avoir des rapports entre les différentes disciplines, quelles qu'en soient les raisons de ce refus de dialogue, était absolu de la part de ces laboratoires du carbone 14. Ils ont imposé ce préalable, d'ailleurs, avant l'exécution des tests. Il avait été proposé que les membres les plus qualifiés de l'étude du linceul, particulièrement des Américains très avertis, dont des incroyants et des Juifs, c'est la grande équipe américaine qui a fait les dernières et les plus importantes découvertes scientifiques sur le linceul, ils ont refusé qu'ils puissent être présents au test. Savez-vous pourquoi? Ils disent, nous ne voulons pas connaître les gens de cette association, le STURP. Ils sont convaincus d'avance, donc disqualifiés. Voyons. C'est ridicule, ce jugement n'était pas juste. C'est passionnel. Car cette association, le STURP, qui est loin de ne comporter que des catholiques, ni même des chrétiens, est toujours restée sur un terrain strictement scientifique. Il ne s'est jamais prononcé sur l'identification du corps enveloppé par le linceul. Il refuse parce qu'il se place sur le plan scientifique. Elle n'a jamais dit « c'est le linge qui a enveloppé le corps du Christ ». Quoi qu'on puisse le dire quand on ne veut pas se prononcer sur le plan scientifique, mais sur le plan de l'évidence. Cette association a toujours bien précisé les strictes limites des conclusions qu'elle avait établies. Et cette recherche disciplinaire, exemplaire, à laquelle on doit des dizaines de conclusions scientifiques dans des tas de volumes et de revues, c'est par centaines et par centaines. Ce sont des conclusions définitives. Il me semble que ça aurait normalement dû présider au nouveau test du carbone 14, dont les conclusions auraient été ainsi plus vite articulées avec l'ensemble. Si difficile que cela puisse paraître aujourd'hui. Hein? Et ce test a été fait en vase clos, en secret, dans des laboratoires. Et tout ça s'est fait de façon pénible. Mais on dirait que les gens ne veulent rien comprendre. Je continuerai tout à l'heure pour vous donner quelques détails de plus sur le linceul qui nous vient de Saint-Joseph d'Arimathie. Quand on y pense deux secondes, le Saint-Suaire ou le linceul nous explique autant que nous puissions comprendre le mystère du tombeau vide qu'a vu Saint-Jean. Et qu'a vu aussi Saint-Pierre. Le mystère du tombeau. Jésus fut déposé le vendredi saint, d'où le corps avait disparu au matin de Pâques, environ 40 heures plus tard. C'est à cause de ce mystère que tant de gens s'acharnent à combattre le Saint-Suaire, il me semble. Ils ne verraient pas trop de difficultés, au fond, à reconnaître que Jésus, dont on ne peut nier sérieusement l'existence historique, ait pu laisser des traces matérielles de sa vie et de sa mort, telles que son linceul. Ces gens-là admettraient peut-être que le sang qui tache le tissu en mains endroits confirme les récits de la Passion. Les savants ont d'ailleurs étudié ce sang, en particulier de Dr. Heller. Aux États-Unis, c'est bien du sang humain. C'est un très grand spécialiste, le Dr. Heller. Il a même passé à la télévision à ce sujet. Il n'y a rien de là de surprenant. Mais combien étrange est en revanche l'image double du corps qui est belle, qui est précise, qui est parfaite et que l'on ne peut pas répéter. Elle est unique. Jamais, je le dis, je le répète et je l'affirme, jamais un autre corps que celui du Christ Jésus, notre Seigneur, n'a laissé sa photographie dans son linceul. Quand je dis que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, je parle comme André Castelot, qui est un agnostique que j'avais interviewé il y a 20 ans. et qui figurait dans mon film sur le Saint-Suaire qui a fait le tour du monde. André Castello l'affirmait que c'était évidemment Jésus de Nazareth, un agnostique. Il n'est pas le seul. Ce sont des centaines d'agnostiques et d'athées à le reconnaître. Il s'est passé dans le tombeau voisin du Golgotha le matin de Pâques quelque chose que l'on n'a jamais vu ailleurs. Et ce quelque chose, est-ce que ce ne serait pas lié à la divinité du Fils de Dieu? Je pose la question. Moi, j'y réponds personnellement par l'affirmative, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est pour écarter cette question que les gens qui refusent de reconnaître la divinité du Christ s'opposent avec obstination au Saint-Suaire. Oui, ils essaient par tous les moyens de trouver une explication naturelle à la formation d'images, mais il n'y en a pas d'explication naturelle. Lisez, vous allez voir ceux qui ne me croient pas, là. Car tous les essais d'en faire un autre échouent. Alors ces gens-là s'efforcent de nier l'authenticité de la relique. Oh, il dit, ce n'est pas le linceul du Christ, c'est un faux. Il ne date que du Moyen Âge. Mais leurs efforts, me semble, sont perdus d'avance. Si quand même on pouvait penser à l'œuvre d'un faussaire du Moyen Âge, ou l'inseil d'un personnage inconnu, cela expliquerait pas quand même l'apparition de l'image, cette image unique. Car cette image forme le cœur du mystère. Les recherches scientifiques ont prouvé qu'elle n'était pas une œuvre humaine, ni le résultat d'un phénomène naturel. Faut quand même se mettre ça dans la tête une fois pour toutes. Elle n'est pas plus une photographie, même si elle a presque l'aspect d'un négatif. Elle n'est pas une peinture non plus. Elle n'a été faite, ni ne s'est faite, avec aucun colorant, aucun produit chimique, rien de solide, ni de liquide, ni de gazeux. Et pourtant, l'image existe. Je l'ai vue. Bon, on a les photos. Ils sont répandus par millions. On la voit. Mais qu'était-ce donc? Qu'est-ce que c'est que cette image? De quoi est-elle faite? Il aurait fallu attendre la fin du 20e siècle pour que les savants puissent apporter l'étonnante réponse. L'image est une roussissure. Une très légère brûlure, rien d'autre. Une brûlure? Oui. Cette roussissure ne peut résulter que d'une sorte de rayonnement. D'un rayonnement qui est émané du corps lui-même, du corps de l'homme mort déposé dans le tombeau. Sinon, le rayonnement venu d'ailleurs se serait réfléchi sur le corps. Il aurait dévié, il n'aurait pu donner qu'une image absolument déformée. Un rayonnement, donc. Mais c'est un rayonnement qui possède des propriétés inconnues. Et en effet, il a frappé le tissu de manière à y former une très belle image, très exacte, comme si les deux pans du linceul se tenaient parfaitement plats, horizontaux. Sinon, l'image se trouverait déformée au point, au moins en largeur. Mettez un tissu sur votre figure et remettez-le à plat. Et ce qui aurait été imprimé si vous avez mis un peu de charbon sur votre figure, ça va faire une face ronde, évidemment. Or, il est certain que le plan du dessus, loin d'être plat lors de la mise au tombeau, eh bien, il épousait, à cause de son poids, les reliefs du corps, mais le rayonnement a donc agi comme s'il n'y avait plus eu de pesanteur. Alors, on tombe dans le problème de l'apesanteur. Il faut que le Christ se soit soulevé, et son corps s'est imprimé par des rayonnements au moment de la résurrection. Vous direz que je charrie. Je ne crois pas charrier. J'ai assez lu, assez étudié ça pendant des semaines, des mois. Ça fait des années, ça fait 30 ans que j'étudie ça. Et pour ma part, j'ose affirmer que c'est évidemment Jésus que j'aime, qui est là, que je peux vénérer, auquel je peux dire, Seigneur Jésus, je t'aime et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je répète les paroles de l'apôtre. Oui, tu es vraiment ressuscité. Tu es vraiment ressuscité, Jésus. Et je le crois. Je le crois fermement. Comme dit l'abbé Laurentin, Il faudrait supposer qu'un miracle aurait été opéré pour confondre tous ces blasphémateurs. Le linceul porte tant d'extraordinaires et inexplicables particularités qu'on se trouve nécessairement reconduit au miracle pour l'expliquer. Je ne saurais trop vous inviter, ceux qui veulent lire un petit livre pas compliqué, de Daniel Raffard de Brienne, qu'ils lisent une merveilleuse aventure, le Saint-Suaire, paru, c'est un livre pour les jeunes, collection Saint Légendaire. C'est paru récemment, ça se trouve en, c'est à peine un peu plus de 100 pages. Ça se lit très facilement et c'est très, très bien fait. Il y a le Dictionnaire du linceul de Turin, aussi par Raphaël de Brienne, le même auteur, aux éditions de Paris. Il y a celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nouvelle découverte sur le suaire de Turin, d'André Marion et Anne-Laure Courage chez Albin Michel. Ne lisez pas de grâce le linceul de Turin de Serge Franchette chez Pierre Tiki, ça ne vaut rien. Celui d'Odile Cellier aux éditions du Cerf, le signe du linceul, est pas mal. Le suaire, une énigme à l'épreuve de la science d'Orazio Petrosillo, Emanuela Marinelli chez Fayard, est très bien fait. Et celui aussi, par le frère Bruno Bonnemar, le Saint-Suaire, preuve de la mort et de la résurrection du Christ. Gros bouquin, très, très intéressant aussi. Et quantité d'autres, je ne saurais vous donner toute la liste.